BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. C'est l'euphorie sur les marchés ce midi, avec l'espoir d'une avancée concrète dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Les principales bourses européennes sont dans le vert, dont le CAC 40, qui progresse d'environ 2,5%. Le prix du pétrole repart à la baisse avec un baril de Brent qui redescend petit à petit vers les 100 dollars. Nette détente également sur le marché obligataire, figurez-vous. Le 10 ans français retombe autour des 3,6% et le 10 ans allemand sous les 3%. Il faut dire que les dernières déclarations laissent enfin entrevoir une résolution du conflit au Moyen-Orient. Ce midi, le Premier ministre pakistanais dit avoir bon espoir que l'actuelle dynamique à Hormuz mène à la paix. La nuit dernière, Donald Trump parlait, lui, de grands progrès vers un accord complet et définitif. Un média américain citant des responsables à Washington affirme que les États-Unis attendraient une réponse des Iraniens sur un protocole d'accord dans les 48 prochaines heures. Protocole qui prévoirait notamment un engagement de l'Iran à un moratoire sur son enrichissement nucléaire et une levée de toutes les restrictions sur le transit par le détroit d'Hormuz. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence amis professionnels de ce secteur de l'immobilier au sens large. Le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers et des bons conseils d'investissement assez régulièrement. Aujourd'hui, on investit dans la restructuration d'immeubles haut de gamme. On parle club deal. Alors attention, les tickets d'entrée sont relativement élevés, mais les rentabilités le sont tout autant. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour des génies de la rénovation, de la donnée et de la rénovation pour nous apporter l'éclairage qu'il faut aujourd'hui à l'heure de l'électrification de notre parc. Est-ce que l'ambition sera finalement au rendez-vous ou en tout cas les promesses qu'on nous fait sur l'électrification de notre parc pourront-elles être tenues? On verra ça dans quelques instants, mais d'abord donc c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Benjamin Prodhomme, associé gérant chez Cézambre Capital. Bonjour Benjamin.
Bonjour Marie, merci pour votre invitation.
Merci pour votre éclairage sur des opportunités d'investissement. Alors je disais que le ticket d'entrée pour ce club deal, il est relativement élevé. Ça dépend, si on fait un investissement locatif en solo, ça peut paraître assez faible finalement. On parle de quoi comme ticket d'entrée? Environ 100 000 euros, c'est ça?
Exactement. Sur la plupart des club deals, en tout cas sur lesquels on travaille chez Cézambre Capital, le ticket d'entrée, c'est 100 000 euros. Donc, c'est souvent des opérations de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais l'investisseur particulier, lui, il va mettre 100 000 euros, il va avoir une quote-part de l'opération.
Et puis surtout, à la fin, moi, je regardais les taux de rendement là affichés. Alors, c'est sur des durées relativement courtes, je crois que vous dites 2 à 3 ans, et un taux de rendement qui est spectaculaire.
Alors tout à fait, c'est des opérations qui sont sur des durées courtes, 1 à 3 ans en moyenne, avec des TRI, donc des rendements cibles qui sont entre 10 et 15%. Donc c'est un investissement qui comporte une notion de risque, évidemment, mais sur lequel il y a un retour possible qui est conséquent. Et c'est des produits qui capitalisent, donc du coup, l'investissement va être rendu à la fin avec un objectif évidemment de plus-value, mais il n'y a pas de distribution pendant cette période d'investissement.
Oui, il faut avoir une capacité d'épargne, c'est-à-dire que ces 100 000 euros, je les mets chez vous, j'attends pendant 3 ans, j'ai rien. Mais après, c'est là où je récupère ces fameux 10 à 15%. Alors oui, effectivement, quand on parle de rendement stratosphérique à deux chiffres, on se dit « Ouh là là, on prend un risque intersidéral ». Mais enfin, quand même, on fait aussi des choses assez vertueuses. Vous nous parlez concrètement de ce dans quoi je vais investir moyennant 100 000 euros mobilisés pendant 1, 2 ou 3 ans?
Bien sûr. Je peux vous donner un exemple concret. On a réalisé dernièrement, par exemple, une opération pour des clients qui ont investi aux côtés d'un investisseur institutionnel, en l'occurrence Arkéa Crédit Mutuel, dans une opération donc de restructuration d'immeubles à Paris, qui est donc dans le 7e arrondissement, face au bon marché, rue de Sèvres. Et c'était un immeuble qui comprenait donc 6 locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Notamment, il y avait des enseignes comme LCL, Lacoste, qui étaient locataires. Et il y avait 50 appartements dans les étages. Et donc, Arkéa a acheté l'immeuble, a réalisé donc certains travaux. les locaux commerciaux ont été revendus en bloc tout de suite à un investisseur institutionnel et les 50 appartements sont rénovés ou en cours de rénovation et sont revendus à l'unité, appartement par appartement.
Et puis j'imagine donc, voilà, des tarifs, alors là pour le coup on n'est pas à 100 000 euros l'appartement d'un coup.
Non, bien sûr, c'est des appartements avec des prix qui sont relativement élevés étant donné le quartier, mais surtout comme dans tout investissement immobilier, c'est le prix d'acquisition qui compte et si vous achetez bien, eh bien c'est là où vous allez réaliser une plus-value. La plus-value elle se matérialise aussi beaucoup sur le prix d'acquisition. Donc nous, c'est vrai que chez Cézanne Capital, on se concentre beaucoup sur des opérations parisiennes. On a des opérations aussi en cours avenue Montaigne dans le 8e ou avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement parce qu'on estime que c'est le marché le plus résilient et sur lequel il y aura toujours de la demande à la revente sur ce type d'actifs.
Et alors justement, question pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne savaient pas quoi faire des 100 000 euros qui dormaient sur un compte épargne pas très rentable. Il y a des programmes, là vous me parlez de Victor Hugo dans le 16e, de l'avenue Montaigne dans le 8e. Là, ils peuvent encore investir dans ces projets-là. Il y en a d'autres qui vont voir le jour.
Exactement, tout à fait. C'est des opérations qui sont en cours et on en a très régulièrement chez Cézanne Capital. Nous, on accompagne beaucoup de clients particuliers ou des holdings patrimoniales qui veulent diversifier leur patrimoine financier sur des actifs tangibles et surtout investir aux côtés d'un professionnel de l'immobilier qui va être agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et qui va réaliser l'acquisition, qui va réaliser les travaux et la revente. Donc, c'est assez sécurisant pour l'investisseur d'avoir un institutionnel agréé par les autorités financières pour l'accompagner dans ce type d'investissement. Parce que lui, il a aucune contrainte de gestion. Et quand on connaît l'immobilier un petit peu, bon bah voilà, les contraintes de gestion ou les problèmes avec les locataires peuvent être assez conséquents. Donc c'est un avantage certain, surtout que ce type d'investissement est dans la plupart des cas hors IFI, hors impôt sur la fortune immobilière, donc ça peut intéresser des investisseurs en termes de fiscalité également.
On est d'accord. Juste d'un mot, vous parlez de l'impôt sur la fortune immobilière. J'ai le sentiment qu'on parle de plus en plus, en tout cas dans mon émission, j'ai beaucoup plus en plus de témoignages sur ces club deals. Est-ce que vous avez une espèce d'ambition de démocratiser, parce que là vous parlez de l'impôt sur la fortune immobilière, il y a des gens qui ne paient pas l'impôt sur la fortune immobilière parce que leur fortune immobilière ne le permet pas. Est-ce que vous avez ce sentiment que ces club deals sont en train de se démocratiser?
Oui, bah tout à fait. Bah c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. C'était réservé vraiment à des clients institutionnels historiquement, donc avec des tickets d'entrée qui étaient de 5 millions, 10 millions, 15 millions. Donc là, évidemment, c'est des sommes qui sont extrêmement conséquentes. 100 000 euros, c'est déjà un montant important, évidemment. Mais bon, ça les rend accessibles à un univers d'investisseurs qui est quand même plus large. Et aujourd'hui, ça intéresse beaucoup les clients parce qu'il y a des opportunités à saisir sur le marché immobilier, notamment parisien.
Merci Benjamin Prodhomme, associé gérant chez Cézambre Capital. Si vous voulez vous aussi investir dans un club deal, merci beaucoup pour votre témoignage. Et si vous avez d'autres témoignages à nous apporter, vous êtes professionnel de ce secteur de l'immobilier, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'immo, le débat.
Et à mes côtés, deux nouveaux venus dans ces experts de l'IMO que j'espère reviendront souvent parce qu'ils vont nous apprendre beaucoup de choses. Alors, je vous salue Julien Bénard, fondateur de Kazam et auditeur énergétique. Vous allez nous raconter ce que vous faites. Bonjour Julien.
Bonjour Marie.
Et Pierre-Louis Gure, DG d'Argile et docteur en intelligence artificielle. Bonjour Pierre.
Bonjour Marie.
Alors justement, comme c'est votre première fois, on va se présenter. Alors pas moi hein, du coup, mais vous faites quoi chez Kazam précisément Julien?
Ouais, chez Kazam, on est l'assistant à la rénovation énergétique des professionnels de l'habitat. C'est-à-dire qu'on a d'une part un simulateur qui va permettre à ces professionnels d'aider et de conseiller les particuliers, de leur présenter les avantages d'une rénovation énergétique, les bénéfices, donc les aides à la rénovation, la plus-value immobilière lorsqu'ils rénovent, par exemple. Et puis, ce qui est important, c'est de mettre en place tout ce qu'on a promis auprès du particulier. C'est donc chez Kazam, pour aller jusqu'au bout des projets, on a une partie service. C'est notre cœur de métier. Je suis auditeur énergétique moi-même, mais on a toute cette partie service qui va permettre vraiment donc de concrétiser le projet. Donc une conciergerie qui permet donc pour un installateur de pompe à chaleur de pouvoir monter des dossiers d'aide pour ses clients, pour un propriétaire bailleur de réaliser une rénovation et sortir de l'interdiction de location sur les biens EFG. Voilà. un acquéreur qui achète un bien avec travaux, de pouvoir rassurer la banque, par exemple, avec un DPE projeté. Voilà, c'est notre identité, le service.
Voilà le topo pour Kazam. Pour Argile, Alors, on y va, Pierre-Louis.
Eh bien, chez Argeville, on est un logiciel basé sur l'IA, l'intelligence artificielle, et nous, on accompagne tous les pros pour l'ensemble des étapes d'un parcours de rénovation énergétique. Donc, concrètement, on les aide à trouver des chantiers, on les aide jusqu'à la facturation, en passant par la conception d'un projet. Par exemple, Marie, si vous voulez installer une pompe à chaleur chez vous...
Comme par hasard.
Par hasard. Eh bien, l'artisan va utiliser Argeville pour trouver c'est quoi la bonne taille de la pompe à chaleur. C'est un choix qui est technique, qui est assez complexe. Et l'IA va permettre de bien comprendre quels sont les besoins du logement et les adapter à vos besoins à vous et trouver un plan de financement qui correspond pour mettre tout ça en musique.
Et puis j'imagine que vous allez calculer le gain final aussi pour ma pomme, accessoirement.
Exactement, parce que pour pouvoir vous projeter, ben, on va déjà essayer de bien comprendre quels sont vos besoins, qu'est-ce qui ne va pas dans votre logement actuel. Et du coup, se projeter en disant, bah, regardez Marie, en proposant cette solution-là, bah, où est-ce que vous allez arriver demain ?
Ouais, combien je vais gagner, combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter à la fin.
C'est ça, c'est des questions qui sont vraiment essentielles sur un projet, qui sont malheureusement très complexes à trouver. Et donc, Argeville, on vient accompagner tout cet écosystème. On travaille avec des banques, on travaille avec des logiciels, on a cette infrastructure qui accompagne pour trouver une réponse fiable et précise à toutes ces questions.
Et vous êtes un indicateur avancé de tous nos débats politiques actuels sur la rénovation au sens large. Alors, je le disais d'un mot en plaisantant, en disant, oh, ça va, les propriétaires bailleurs, ils vont avoir un sursis. Bah, c'est vrai, on va le dire, ça a été l'annonce de ces 15 derniers jours. Amis propriétaires bailleurs, certes, on maintient le calendrier d'obligation de rénovation parce que, bah, on rappelle, hein, c'était quoi le calendrier ? 1er janvier 2025, les logements G interdits à la location. 1er janvier 2028, les logements F. 1er janvier 2034, les logements E. J'aime bien, ils me regardent.
Non, c'est parfait.
Et malheureusement, j'ai toujours en tête. Mais alors, a priori, on maintient, mais quand même, on va laisser quelques années de plus pour y arriver. On avait dit que le calendrier était complexe pour certaines personnes qui, légitimement, n'avaient pas le temps, les moyens de réaliser les travaux pour un aspect financier ou technique, hein, parfois, ou d'ordre décisionnel au sein d'une copropriété. Donc, ce sera 5 ans de plus pour le collectif, donc dans les appartements, 3 ans de plus pour les maisons. Et alors, moi, c'est comme ça que je vous ai rencontré, Pierre-Louis. J'ai adoré, personnellement, votre analyse de la situation. J'ai trouvé qu'elle a été très bien résumée. C'était, en fait, peanuts cacahuètes en termes d'offres locatives supplémentaires qui va arriver sur le marché. Et deux, ce sont les locataires de ces passoires thermiques qui vont revenir potentiellement sur le marché, qui, eux, vont payer la note, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Pourquoi est-ce qu'on a en fait toute cette mise en place d'un protocole ? Eh bien, c'est pour se dire, on veut atteindre, bien évidemment, des objectifs de décarbonation. Donc, c'est-à-dire le logement, il faut le rappeler, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est l'endroit où toutes les planètes sont alignées, si on peut dire, puisque en venant décarboner le logement, eh bien, en passage, on vient revaloriser le patrimoine, le bailleur est content.
C'est vertueux, quoi.
Et puis, en plus, le locataire est content puisqu'on a une baisse de sa facture énergétique. Donc, nous, là, ce qu'on avait calculé, c'était de se dire, par exemple, en installant une pompe à chaleur, on va gagner à peu près 2 classes, on va passer de G à E. C'est quoi les économies d'énergie qui sont valorisables par le locataire ?
Ouais.
Et en fait, on trouve entre 100 à 150 euros. Forcément, ça dépend du logement par mois.
La taille aussi.
Ouais. Mais c'est quand même des économies substantielles. Alors qu'on est en pleine crise énergétique, c'est quand même une réponse assez pragmatique.
C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer grossièrement, parce que j'aime bien être grossière, l'idée, c'est de dire, si moi, j'habite aujourd'hui un logement, je crois de mémoire, un T3, qui est classé G au DPE, par rapport au même logement T3 classé E, je vais avoir un surcoût mensuel de l'ordre d'environ 100 euros par mois.
Exactement, c'est ça. Et donc là, ce qu'on voit, c'est sur des réservoirs de passoires thermiques. Alors, il faut penser beaucoup à l'Île-de-France. Hein, c'est là où on a un cluster très important. Eh bien, quand on regarde département par département, on voit des grosses inégalités. Celui qui souffle le plus, c'est celui de la Seine-Saint-Denis, dans lequel on a en même temps le taux de précarité des ménages qui est le plus important.
Ouais.
Donc, on arrive finalement sur un système à double peine. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est une remise en marche sur le marché
ouais,
qui reste assez faible et qui ne va pas combler cette crise locative.
Je vous interromps, Pierre-Louis, mais le gouvernement nous a dit, si je fais ça, c'est parce que quand même, vaut mieux vivre dans une passoire que sous les ponts. Bref, je m'abstiendrai de tout commentaire sur la morale de l'histoire, mais enfin quand même. Et en se disant, on va remettre quand même 700 000 biens sur le marché. Donc sur le papier, on peut se dire, oui, effectivement, à choisir, mieux vaut peut-être habiter dans une passoire. Et puis si ça remet 700 000 logements sur le marché de la location, ça peut être intéressant. Sauf que vous me dites, là où on a des besoins, c'est pas là où on va avoir beaucoup plus de logements à louer.
Exactement. Il faut différencier vraiment dans le marché deux types de marchés, on va dire, un peu le marché qui est soumis à une tension locative et dans laquelle, ben, en fait, cette tension fait que cette remise en marché, c'est pas un coup de baguette magique. La tension locative, elle est structurelle, elle a d'autres causes et c'est pas
que ça. Que cet enjeu d'interdiction.
Et puis d'un côté, on a tout cet immobilier qui n'est pas soumis à une tension particulière, sur lequel ben, cette loi, hein, qui date quand même de la loi énergie-climat 2021, elle avait beaucoup de sens. Et là, cette remise en cause, eh bien, on peut se dire, c'est quand même avant tout un aveu d'échec du gouvernement. Un aveu parce qu'on venait un changement dans le calendrier, première adaptation. Et puis, deuxième adaptation, c'est l'ambition de cette loi énergie-climat qui passe un peu aux oubliettes. Puisqu'on voulait faire d'une rénovation globale, c'est-à-dire d'abord on vient bien isoler, puis un changement de chauffage qui permet de complètement réduire les gaz à effet de serre et en même temps d'augmenter le confort, à dire bon bah tant pis, on a loupé cette option-là, on va aller un peu sur le plan d'urgence et faire qu'une électrification qui a ses vertus mais qui a aussi tous ses inconvénients.
Limite, on va en parler, mais pour terminer et boucler la boucle sur cette histoire du calendrier, je vous regarde Julien, techniquement ça veut dire quoi? On va avoir des propriétaires bailleurs qui vont se dire bon, il est urgent d'attendre et de ne rien faire, en fait.
Moi, personnellement, pour répondre, je pense que c'est beaucoup un effet d'annonce. En fait, ce qu'on voit dans les statistiques, notamment données par Foncia, qui est le spécialiste de la gestion locative ou Se Loger, c'est qu'on a, depuis quelques années, de moins en moins de logements en location, de moins en moins d'annonces sur les portails. Et je pense que, globalement, et ce que dit Foncia, je reprends leurs mots, c'est que on a des investisseurs qui trouvent de moins en moins sexy
d'investir. Et pas uniquement à cause des obligations.
Et donc, à la fin, moi, je pense qu'on parle d'un sujet. Donc, en effet, on veut anticiper de 2028 avec cette interdiction parce que de location sur les biens F. C'est le gros réservoir parce que les biens G, il n'y en a quasiment plus, hein, qu'on se le dise. Donc, je pense qu'il est là l'enjeu. Mais au-delà de ça, il est surtout de donner un signal positif. Et on va peut-être en reparler avec le dispositif Jeanbrun, qui, à mon avis, il est là l'objectif de
ce gouvernement. Oui, de redire, venez investir. Mais en même temps, la rénovation, elle était en cours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il y avait un sujet pour ces propriétaires bailleurs qui n'étaient pas en mesure de faire les travaux et ce calendrier qui était objectivement intenable pour tout un tas de propriétaires bailleurs. Mais quand il avait été question d'assouplir un peu justement ce calendrier, il était aussi question d'avoir des engagements fermes et définitifs de la part du propriétaire bailleur, possiblement une baisse de loyer équivalente au surcoût pour le locataire à la fin. Est-ce que c'est pas ça qu'on va avoir? Parce que moi, je dis à celles et ceux qui sont investisseurs potentiels dans ces passoires, méfiez-vous, ça va pas être la fête, on fait sauter toutes les obligations.
Je pense encore, quand nous, on a des propriétaires bailleurs, globalement la motivation elle n'est pas là, qu'on se le dise, hein. La motivation c'est revendre. Après, quand on voit au prix auquel on revend, c'est un autre sujet, et là peut-être souvent ça les pousse à rénover.
Et bien alors là messieurs, question, parce que ça c'était mon sujet de ces derniers jours sur lequel je bossais, je me disais mais alors du coup, toutes ces décotes intersidérales qu'on a vues sur les F, sur les G, parce que effectivement à cause, grâce, je ne sais pas, aux interdictions de location, est-ce que finalement ce délai supplémentaire, ça ne va pas réduire les décotes qu'on a constatées ces derniers temps là?
Pour moi, rapidement, je pense que les acquéreurs ne veulent pas, ou en tout cas, il y a très peu de demandes, il y a très peu d'appels sur les biens F et G, surtout en région parisienne, ou en tout cas dans les territoires et les grandes villes où il y a de la location derrière, un potentiel de location derrière. Donc, non, pour moi, la réponse est non, ça ne changera pas la perception de l'acquéreur.
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec aligné avec Julien. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, on parle de la valeur verte, c'est-à-dire de la différence du prix lié au DPE. Le DPE, c'est devenu un très puissant signal prix sur le marché immobilier. Et ça, c'est rentré quand même dans les mœurs. Et pour l'instant, il est encore trop tôt pour voir les implications directes. Mais ce qu'on voit sur les échos du marché, c'est qu'on n'a pas une remise en cause formelle de ce dispositif, puisque c'est vraiment rentré dans les mœurs qu'une passoire thermique, c'est égal à plein de complications. Et c'est forcément un bien qui est un peu moins attractif. Donc ça, je pense que c'est vraiment rentré dans du durable, c'est structurel et on ne va pas y revenir d'aussitôt.
Je peux peut-être donner une histoire récente. On vient d'accompagner un propriétaire qui souhaitait vendre son bien G. Ouais. On est à Levallois-Perrier, je suis désolé, on est encore en région parisienne. On était sur donc une seule offre à 8 200 € du mètre carré. Cette propriétaire décide de faire des travaux, justement. Donc, on a repassé le bien en D. Il était en G, on l'a passé en D.
Beaux travaux, quand même.
Alors, 17 000 € de travaux. Avec une rénovation intérieure, on a changé la cuisine, notamment pour donner...
Pardon, mais 17 000 € de travaux passés de G à D, vous êtes un magicien.
Non, globalement, c'est une aussi des contre-vérités qu'on entend un petit peu partout. Ça coûte pas si cher, on est sur du 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, 17 000 euros, elle a remis en vente, elle a eu 3 offres au bout de 3 jours, une à 9 000 euros, une à 9 500 et une à 10 000 euros. Elle a fini au prix à 10 300 euros.
Wow.
Donc en fait, elle a fait elle a gagné 40 000 euros, hein, entre le premier prix et le prix de vente. Donc ça a absorbé largement les 17 000 euros de travaux. Elle a même donc gagné de l'argent. Hein, donc voilà, elle est.
Ouais,
elle
mais c'est toujours sur cette revalorisation du patrimoine, cette valeur verte dont vous parliez, Pierre-Louis. Mais c'est quand même, enfin voilà, c'est.
Et parce qu'on a créé de la concurrence entre les acquéreurs qui se sont battus sur le prix, et donc on est revenu au prix parisien qui sont assez élevés.
Qui pique, on va dire comme ça, qui pique. Bon, du coup, on parlait, elle a fait installer une pompe à chaleur?
Non, pas de pompe à chaleur.
Parce que justement, on va se mettre là-dessus quand même un petit peu, parce que d'un côté, effectivement, on a ces assouplissements qui pourraient quand même rendre un peu frileux les propriétaires bailleurs à l'idée de se lancer enfin dans les travaux, et de l'autre, on a quand même cette marche forcée vers l'électrification compte tenu du contexte géopolitique. Louable à ce stade, hein, quand même, hein, l'électrification, l'installation de pompes à chaleur. Vous dites quoi? Ça y est, c'est en train de prendre, ça va prendre. On donne finalement tous les outils nécessaires aux Français, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, pour passer à l'électrification aujourd'hui.
Oui, alors on a sorti une application qui est disponible sur notre site internet. On avait fait une boîte à outils sur le leasing social, donc ce nouveau procédé qui vient du secteur de l'automobile et que le gouvernement veut remettre à la sauce de l'électrification du bâtiment. Et on vient analyser du coup quel est l'impact de se dire, bien, on a une partie de ce parc immobilier dans lequel on peut appliquer des aides. Ensuite, on peut appliquer un financement sous la forme d'un prêt pour arriver à un apport personnel à zéro.
Ouais.
Et là-dessus, ce qu'on veut, c'est que les économies d'énergie viennent compenser
le coût
ce prêt.
Mensuel, en fait.
Voilà,
on va avoir
ça.
Un coût mensuel tout compris qui est à la fois déduit des aides, évidemment, auxquelles je peux potentiellement prétendre, mais avec le coût de ma pompe à chaleur à la fin et avec mon fournisseur d'énergie, je crois, à la fin aussi. C'est de dire, j'essaie de faire un package tout compris.
Et donc la question, c'est aujourd'hui, où est-ce que c'est déjà rentable? Où est-ce qu'on a besoin d'un abondement supplémentaire du gouvernement? Donc pour l'instant, on parle d'à peu près 2000 euros sans qu'on sache exactement comment est-ce que ça a fonctionné par rapport aux règles très complexes de MaPrimeRénov. Et ce qu'on voit comme enseignement sur cette application, eh bien, c'est qu'on a déjà toute une partie du parc immobilier qui est déjà rentable.
Ouais.
On peut déjà mettre une pompe à chaleur, le financer entièrement par un prêt et sans avoir besoin d'un mécanisme supplémentaire. On a une partie du parc immobilier, par exemple, qu'on est dans le sud et qu'on est avec des revenus assez importants. On a moins d'aide et on a moins d'économie d'énergie. Donc là, le dispositif complémentaire peut être pertinent. Et donc la question, elle est pourquoi finalement sur un dispositif qui est déjà bien fonctionnel du point de vue financier, on a un marché de la pompe à chaleur qui en baisse sur ces dernières années? Et donc là, c'est.
Allez-y, on vous écoute. Mais pourquoi?
Je pense que mon avis, c'est qu'aujourd'hui, les particuliers n'avaient pas ce signal, ou en tout cas n'avaient pas cette contrainte. Et avec un gaz, enfin une facture de gaz qui fait plus 20%, une facture du fuel qui fait plus 60%, on le voit, l'incitation, elle est là. Et derrière, en effet, je pense qu'on arrive à un stade où voilà, on a une maturité avec en plus des dispositifs qui vont être complémentaires avec le leasing social. On attend encore les annonces et les précisions. Je pense que normalement, on a tous les arguments pour aller de l'avant et passer de 180 000 unités par an à, j'espère, 1 million. Parce que, objectivement, l'objectif d'un million, en fait, c'est pas un truc sorti de du chapeau. On a vraiment besoin, on a 8 millions aujourd'hui de maisons individuelles qui ont un dispositif à énergie fossile. Pour remplacer 8 millions, 180 000 par an, ça suffit pas.
Vous dites une très bonne chose, vous parlez de maisons. Comment on fait dans le collectif, les gars? Parce que la maison, effectivement, alors, et en plus, Dieu sait qu'alors j'ai Alban, notre réalisateur, qui suit tout le temps notre émission et qui me disait dans l'oreillette, ouais, mais enfin, je rappelle déjà, effectivement, qu'une pompe à chaleur, c'est 12 000, ça peut être même 15 000 euros, l'installation d'une pompe à chaleur. Donc, en fonction de votre niveau de revenu et donc des aides auxquelles vous pouvez prétendre, ça reste quand même parfois un peu lourd, quand même, comme coût, même si j'arrive à lisser via notre système de leasing social et tout ça, ça peut être compliqué. Et par ailleurs, comment je fais pour équiper aussi plusieurs millions de logements en copropriété aujourd'hui?
Alors en copropriété, on peut bien sûr, dès lors que si on est sur un système collectif, il va falloir aller dans une démarche de remplacement ou d'hybridation, ce qu'on appelle d'hybridation du système de chauffage collectif. C'est des gros investissements on parle de souvent une facture au-delà de 100 000 euros, hein, enfin, ça dépend de la taille de la copropriété. Et puis en individuel, hein, dès lors qu'on a la main
du
sur son système de chauffage,
on peut être dans le collectif avec un chauffage individuel. Ouais.
On peut, et dans ce cas-là, c'est malheureusement difficile de faire autrement que du radiateur électrique. Aujourd'hui, dans le cadre de grosses réhabilitations, on peut aller sur des pompes à chaleur monobloc, mais ça nécessite souvent d'avoir la main sur tout ce qui est urbanisme, pouvoir avoir des autorisations nécessaires. On n'a pas forcément d'unité extérieure, mais il faut avoir la main sur l'urbanisme. Et puis, côté accord de copropriété, il y a aussi des gros enjeux. Donc souvent, ça marche bien quand on rachète une monopropriété et qu'on va avoir... Et donc forcément, c'est des gros investissements.
Ouais, mais donc du coup, ma question, Pierre-Louis, je la repose. Est-ce que ce pari peut être gagné, en fait?
Oui, et c'est là, en fait, et bon, pour rejoindre la question précédente, ce qui est très important à prendre en compte, c'est que c'est une industrie dans laquelle on a besoin de temps long. Sur une copropriété, eh bien, l'idéal, ce sont de faire les travaux au sein de la copropriété et ça se fait pas en claquement de doigts. Il faut déjà commencer à rassembler le syndic, à rassembler les autres copropriétaires. Généralement, ça commence par une bonne bouffe pour se mettre d'accord sur...
Alors, Pierre-Louis va jusque dans les détails, quoi. Alors, prévoyez une petite bouteille.
Ça va prendre plusieurs années et il faut être d'accord là-dessus. C'est du temps long, mais c'est aussi du temps long du point de vue des artisans. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre à des chantiers qui sont techniques, une pompe à chaleur, ça se pose pas facilement. Eh bien, il faut recruter, il faut former ces équipes. Pareil, du point de vue des fabricants, on veut construire des nouvelles lignes de production. Eh bien, il faut du temps long. Et là-dessus, le gouvernement, on peut lui faire quelques reproches, puisqu'il a créé une certaine forme d'instabilité chaque année, ce qui a été très dur. Comme c'est l'année dernière où on a eu l'arrêt de MaPrimeRénov', le parcours accompagné du jour au lendemain. Et avec en plus une accusation remise sur la faute des installateurs en disant c'est eux les fraudeurs, on arrête parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Alors que économiquement, on voit bien que c'était un problème de gestion du budget. Donc ça crée une défiance du point de vue des consommateurs et c'est un secteur qui souffre beaucoup de cette instabilité. Donc la première réponse, c'est arrêtons de changer les règles toutes les 5 minutes. Il faut qu'on donne un objectif, un cap et on vienne le respecter.
Bon, on devait aborder plein d'autres sujets, mais il nous reste une minute. Et juste, comme il nous reste qu'une minute, je voulais aborder ce sujet-là quand même. Oui, l'instabilité, d'autant qu'en plus, il pourrait y avoir un autre changement bientôt, l'abaissement du coefficient. Et je voulais quand même en parler, l'abaissement du coefficient dans le mode de calcul pour l'électrique, dans le mode de calcul du DPE. On l'a vécu au 1er janvier et youp la boum, on a des centaines de milliers de passoires en moins qui sont chauffées à l'électricité. Et là, dans les tuyaux, un nouvel abaissement de ce coefficient. Alors, il était passé de 2,3 à 1,9. Il pourrait redescendre à 1,7, qui est à peu près le niveau de la norme européenne. Ça aussi, ça peut encourager nos amis copropriétaires et copropriétés à se dire, je vais valoriser mon patrimoine. Ça aussi, ça pourrait mettre rehausser la note.
Ça va dans le sens de l'électrification, hein, donc de pouvoir donner encore un avantage à passer sur l'électrique et donc à rehausser sa classe énergétique, valoriser son bien encore un petit peu plus grâce au DPE. Donc oui, ça peut. Je pense que on pourrait faire un 9 à un 7. Ça serait encore dans une logique d'équité. Après, voilà, le problème, c'est que ça continue à jeter du discrédit sur tout ça. Donc, je pense pas que ça aille dans le sens d'expliquer ce qu'expliquait Pierre-Louis, c'est-à-dire qu'il faut de la stabilité.
Même chose. Ouais, complètement. On a sorti aussi une application aussi disponible sur notre site internet.
Je vais y aller, j'adore,
Pour pouvoir un peu mesurer. Donc, du coup, on a un petit curseur et puis.
Vous bougez le coef de l'électricité, vous savez quelle note vous allez obtenir. Oui, alors vous dites pouf, on vient décarboner les logements. Il va pas être content en régie parce que je prends du temps. Mais quand même, il y a un vrai sujet sur aujourd'hui, dans cette partie énergie, là, du calcul du DPE, le coefficient de l'électricité, il reste à ce stade nettement plus élevé que le gaz. On est à 1,9 pour l'électricité et 1 pour le gaz. Donc, c'est pas complètement incohérent non plus de choisir que l'énergie décarbonée baisse encore.
Tout à fait. Par contre, c'est une contrainte à nouveau sur les locataires qui sont sur un prix qui est deux fois plus élevé sur l'électricité que le gaz.
Et mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Oui, bah dans ces cas-là, on reste au gaz, tout le monde. Bah, voilà, restez au gaz. Merci à tous les deux. Pierre-Louis Gure, DG d'Argile et docteur en intelligence artificielle, et Julien Bénard, fondateur de Kazam et auditeur énergétique. Merci à tous les deux. Et vous reviendrez, c'était une première réussie. La deuxième sera formidable aussi. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Les experts de l'IMO reviennent demain.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.